Voilà, bonsoir à chacun. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean et le chapitre 6. C'est un long chapitre qu'il mériterait d'être lu en entier, mais ce soir on ne va pas s'attarder sur cela. Je vous invite à le faire à la maison. C'est une bonne chose de voir tout le contexte dans lequel sont écrits les versets qu'on va lire. Nous on va lire à partir du verset 23. Jean chapitre 6, c'est le verset 23. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert et selon ce qu'il est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et lui dire, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Jésus leur répondit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Je suis le pain de vie. Parole magnifique de Jésus. Dans le contexte dans lequel il la prononce, on sait très bien que les Hébreux mangeaient beaucoup de pain. Alors peut-être qu'il n'avait pas la forme que nous connaissons aujourd'hui, ce n'était pas la baguette, mais c'était, et Jésus s'est permis de prendre cet aliment, cette nourriture, cette image-là, parce que c'était quelque chose qu'il parlait à tout le monde. Le pain. Et je pense que si Jésus venait ce soir et nous racontait et venez nous enseigner, je pense qu'il pourrait prendre la même image. Parce qu'en France, comme au temps des Hébreux à cette époque, au temps du royaume d'Israël à cette époque, le pain, il a une grande importance. Et j'étais impressionné en voyant quelques statistiques. Vous savez qu'il y a 320 baguettes par seconde qui sont consommées par les Français. 320 baguettes par seconde. Alors, je ne vous dis pas combien de personnes vont manger pendant que je vais prêcher. Surtout que j'ai prévu de faire une heure à peu près, donc non. 98% des Français mangent du pain. Et quand les étrangers ont un cliché sur le Français, la première chose qu'ils voient, oui, il y a le béret, mais il y a la baguette de pain sous le bras. Et ça, c'est vraiment une image qui est associée à la France. Voilà pourquoi je pense que cet enseignement de Jésus, il est parfaitement approprié pour les Français en particulier. Pour d'autres endroits peut-être aussi, mais en France, c'est approprié parce que le pain représente cette nourriture que nous avons l'habitude de manger régulièrement, cette nourriture qui est nécessaire, que nous soyons riches ou que nous soyons pauvres, on mange du pain. Alors il y en a qui ont que ça pour manger et d'autres qui ont d'autres choses à côté. En tout cas, tout le monde mange du pain. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que non seulement on sait que le pain apporte la vie, mais ce qui est intéressant, c'est que le pain nous parle de ce qui est nécessaire à la vie. Le pain nous parle de ce qui peut nourrir. Et je réfléchissais que le pain permet de nourrir les personnes qui sont affamées, ou en d'autres termes, les personnes qui s'interrogent, qui ont des questionnements. Et dans ce passage, il y a trois questions qui sont posées au Seigneur. Trois questions bien précises qui sont posées au Seigneur. Et je me posais cette question moi-même. Si Jésus était physiquement présent parmi nous, il est là spirituellement, il est là par son esprit, là où deux ou trois sont rassemblés, il est là. Donc ça c'est une réalité, mais s'il était physiquement présent, qu'on avait vraiment on le voyait face à nous, quelles questions on lui poserait? Parce que ce que je remarque, c'est que la question qu'on pose et les questions que posent ces gens au Seigneur, ils sont en train de révéler leur état de cœur. Quelles questions poserions-nous au Seigneur s'il était présent physiquement? Et peut-être qu'il y en a un que ça sera cette question toute simple. Seigneur, avec qui je vais me marier? Montre-moi la personne, Seigneur, que je... Est-ce que ça pourrait être une question? Les célibataires qui sont là, est-ce que ça serait peut-être une des questions que vous lui poseriez? Est-ce que c'est bien de savoir la volonté de Dieu à ce niveau? Je pense que c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça serait vraiment ça la question? Si on avait le roi de l'univers qui était présent parmi nous physiquement et qu'on avait une question à lui poser, est-ce que ça serait vraiment cette question-là? Ou est-ce que ça serait une question plus profonde? Ou il y en a peut-être qui diront, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire comme métier, comment je dois aider les gens, ou telle autre question. Montre-moi, Seigneur, quel sera mon avenir, dans quelle ville je dois l'habiter, je ne sais pas. Il y a une multitude de questions. Mais toutes les questions qu'on peut poser au Seigneur démontrent ce qui préoccupe notre âme, en fait. Ce qui préoccupe notre vie, qu'est-ce qui est important pour nous. Et on va voir ensemble les trois catégories de questions qui ont été posées au Seigneur. En tout cas, la question n'est pas, est-ce que tu es une personne affamée? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as des questions par rapport à Dieu? Peut-être qu'il y a des personnes dans ce lieu qui posent des questions à Dieu. Mais si Dieu vraiment existait, pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il laisse faire ceci? Pourquoi il n'agit pas à tel autre endroit? En tout cas, la question, ce n'est pas de savoir... Si on est affamé, la question c'est de savoir de quoi on a faim, vraiment. De quoi on a faim? Quel est l'objet de nos questions? Quel est le centre de nos questions? Qu'est-ce qui préoccupe notre âme? Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Le pain de vie c'est d'abord, j'ai dit ça comme ça, le pain de vie c'est une parole qui instruit d'abord. Et au verset 25, première question, regardez ce qu'il est dit. « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Question toute simple, en apparence, qui paraît presque même spirituelle. Parce que les personnes s'interrogent à savoir où Jésus est. Est-ce que c'est une bonne chose en soi? Juste avant, on voit qu'ils étaient à la recherche de Jésus. C'est des personnes qui recherchent Jésus. Et ils lui posent cette question, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Mais moi, il y a une grande chose qui me gêne dans cette question, c'est qu'elles ne savent pas, elles ont perdu de vue Jésus pendant un certain temps. Pendant un certain temps, ils ne savaient pas où se trouvait le Seigneur. Ils ont dû, excusez-moi l'expression, ils ont dû batailler, ils ont dû faire tous leurs efforts, faire toutes sortes de renseignements, de recherches pour savoir où était Jésus. Et ça nous parle de ces personnes, d'ailleurs Jésus va en parler lui-même par la suite, c'est les personnes qui sont attachées au miracle que Jésus a fait, dans ce sens qu'il leur a donné à manger. Il a rassasié leur estomac, alors voilà pourquoi ils le recherchent. Ils ne le recherchent pas pour avoir une parole de Dieu, pour avoir quelque chose qui vient de la part du Seigneur. Ils le recherchent pour qu'ils nourrissent à nouveau leur estomac. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont perdu de vue? Et je me réfléchissais à cette chose, c'est que entre le moment où ils retrouvent le Seigneur et le moment où ils l'ont perdu, il y a eu une nuit qui est passée. Et je pense que ces personnes, pour la nuit, ils ont cherché un endroit bien douillet. Alors ça n'engage que moi, hein. Mais je pense que des personnes qui sont attachées à ces bénédictions, à ce que le Seigneur peut donner, ils ont dû chercher un endroit confortable où ils pouvaient passer une bonne nuit. Et ils ne se sont pas préoccupés du tout de l'endroit où était Jésus à ce moment-là. Ils ne se sont pas préoccupés de l'endroit où se trouvait le Seigneur. Et quand ils se sont réveillés, ils se sont aperçus que Jésus n'était plus là. Ils se sont réveillés, dans tous les sens du terme, et aperçus que Jésus n'était plus là. Et la question qu'il pose au Seigneur, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Ces personnes, ce sont les personnes matérialistes qui sont attachées aux réalités terrestres. Je ne dirais pas seulement qu'aux biens terrestres, mais des fois, simplement la réalité terrestre, au raisonnement terrestre, à tout ce qui est apparent, tout ce qui est physique. Et qui refuse de reconnaître qu'il y a un monde spirituel qui est derrière, qui refuse de reconnaître qu'il y a une réalité spirituelle qui est au-dessus de cette réalité physique qui est là. Une réalité spirituelle qui est une réalité de la présence de Dieu aussi qui est au-dessus de toutes ces choses. Et ces personnes cherchaient Jésus pour ce qu'il pouvait leur donner, mais le pain que ces personnes mangeaient si on peut s'exprimer comme ça, c'est leur intérêt, c'est leur confort, c'est le spirituel qui leur apporte quelque chose. Ça, c'est le pain dont ils mangeaient. Et la question qu'ils posent à Jésus nous prouve que c'est ce qu'ils mangeaient régulièrement. Rabbi, quand es-tu venu ici ? Et la conséquence, ce que j'aperçois tout de suite, c'est qu'ils sont décalés de la réalité spirituelle. Ils sont déphasés avec Jésus. Ils sont en retard par rapport au chemin de Jésus, par rapport à l'endroit où il est. Ils sont loin de lui pendant un certain temps. Ils sont obligés de courir après lui. Ça, c'est toutes les conséquences. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu parce qu'ils étaient loin de lui. Ils ne savaient pas que Jésus voulait aller traverser la mer. Ils l'ont su que bien après. Leur bien ou leur raisonnement ou leur attachement aux choses terrestres ou quoi qu'il en soit, leur famille peut-être, ça passe avant leur âme. Et le verset 27, Jésus leur répond à cette question, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » Jésus est en train de leur dire, c'est bien de travailler, il leur dit pas, arrêtez de travailler, ne faites plus rien dans votre vie. Peut-être qu'on aimerait entendre le Seigneur nous dire, arrête de travailler, ça y est, prends du repos un peu. Mais le Seigneur ne nous dit pas ça, il nous dit, travaillez d'abord, ça veut dire ça, travaillez d'abord pour la nourriture qui subsiste éternellement. Pour la nourriture, travaillez d'abord surtout à rechercher la personne qui va vous donner cette nourriture. Travaillez d'abord à connaître le pain de vie, travaillez d'abord à laisser la parole du Seigneur vous instruire. Et le Seigneur, il est en train de leur dire, vous qui êtes attachés au bien maternel, vous qui êtes attachés au bien terrestre, à toutes ces choses qui frappent vos regards, vous qui êtes attachés à cela, soyez conscients qu'il y a une réalité spirituelle au-dessus de ces choses. Et que ce pourquoi vous travaillez, tous ces efforts que vous faites pour les choses qui sont terrestres, qui sont palpables, un jour, le temps va l'effacer. Un jour, vous avez peut-être une certaine somme d'argent, le lendemain, vous n'avez plus rien. Toutes ces choses passent avec le temps. Mais il y a des choses qui ne passent pas. Celles qui sont éternelles. Celles qui sont dans les lieux spirituels. Et l'âme qui n'est pas sauvée, c'est quelque chose qui est inscrit éternellement. À moins que nous fassions la paix avec le Seigneur, c'est un état de fait. L'âme qui n'a pas fait la paix avec Dieu, elle est loin de sa présence éternellement. Par contre, la personne qui a fait la paix avec lui, elle goûte à sa vie éternelle. Et Jésus nous dit, travaillez pour cette nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Cette nourriture qui donne la vie éternelle. Le pain de vie, c'est une parole qui instruit. Comment je mange le pain de vie? C'est en laissant cette parole m'instruire, en laissant la parole de Dieu venir dans mon cœur et m'instruire, m'apprendre les choses de Dieu. Est-ce que ça serait insensé que le Dieu Tout-Puissant nous apprenne quelque chose, à votre avis? Si Dieu est Dieu, j'aime bien cette formule parce que ça nous fait réfléchir. Si Dieu est vraiment Dieu, comme on le dit, est-ce que ce Dieu Tout-Puissant, qui a la connaissance de tout l'univers, qui a dans ses mains le mode d'emploi de chaque atome, qui sait exactement où il se trouve à tel endroit, il sait le nombre de nos cheveux sur notre tête, si lui, il nous parle, est-ce qu'on va accepter de se laisser instruire? Est-ce qu'on va accepter que ce Dieu Tout-Puissant, il nous instruise? Je pense qu'on peut accepter parce que il a la capacité, il a le pouvoir, il a l'autorité, il a toutes ces choses. Parce qu'il est le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Il sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi nous pouvons nous laisser instruire par lui. Manger le pain de vie, c'est donc laisser sa parole nous instruire. Et pourtant, le Seigneur est capable de nous bénir même dans les biens matériels. Je réfléchissais à cette histoire d'une petite dame qui est d'un certain âge, qui était très pauvre. Sa maison, elle tombait en ruine. Elle avait très peu d'argent. Mais toujours, dans son cœur, elle louait le Seigneur. Toujours, elle priait son Dieu. Jour après jour, elle louait le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Et son vrai problème, c'était le voisin d'à côté qui voulait absolument lui démontrer par A plus B que Dieu n'existait pas. Ça, c'était son problème. Et jour après jour, à chaque fois, elle discutait avec lui, et à chaque fois, il persistait dans ses remarques. Et puis un jour, ce voisin, il marche à proximité de sa maison, à la dame, et il aperçoit par la fenêtre qu'il la voit à genoux en train de prier. Il la voit à genoux, Et il est intrigué et il sent aussi une occasion de encore d'aller dans son sens, de lui prouver quelque chose. Alors il s'approche de la fenêtre tout doucement et puis il entend ce qu'elle dit. Et il entend cette prière. La dame, elle est en sanglots, en suppliant le Seigneur. « Seigneur, tu vois que je n'ai plus d'argent. Tu vois que j'ai même plus ma réserve, mon cellier, il est vide. Les étagères sont vides, j'ai plus rien. Le frigo, il est vide. Je n'ai plus rien, Seigneur. Mais je sais que tu es capable, toi, d'intervenir. Je sais que tu es capable de faire quelque chose. Je sais que tu es capable de me faire les courses. » Elle dit ça comme ça. Et le voisin, il saute sur l'occasion. Vous savez ce qu'il fait ? Il court au supermarché, il achète toutes sortes de choses, il remplit un sac, un gros sac de nourriture, toutes les choses qu'il a entendues dans la prière, il achète tout, il court devant la maison de la vieille dame, il pose le sac, il sonne à la porte et puis il se met à côté, il espionne. Et là, vous imaginez, vous venez faire une prière, « Seigneur, fais-moi les courses ». La vieille dame, elle ouvre la porte et elle voit un sac sur le perron de la porte. Qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, comme elle avait cette habitude, elle continue. Elle loue le Seigneur. « Seigneur, je savais que tu allais pourvoir. Je savais que tu étais un Dieu puissant. Je savais que tu étais un Dieu riche en bonté. Que tu écoutes tes enfants. Tu réponds à la prière. » Et là, le gars, il intervient. « Je vous ai eu. Je vous ai eu. Regardez, vous avez prié Dieu et c'est moi qui vous ai fait les courses. C'est pas Dieu qui l'a fait. » Et vous savez ce qu'elle lui dit ? Elle lui dit ben non. Moi, je vous dis, c'est Jésus qui m'a fait les courses. Mais non, c'est moi qui viens d'aller, j'ai porté le sac, j'ai eu du mal tellement il était lourd, tellement il était rempli. C'est moi qui l'ai payé, regardez, j'ai la facture. Je suis d'accord, c'est Jésus qui a fait les courses, mais il vous a juste permis de payer, c'est tout. Est-ce que vous pensez qu'elle avait compris vraiment la volonté de Dieu, cette dame ? Est-ce que Dieu, il n'est pas bon envers ses enfants ? Il a permis que ce gars, en voulant faire du mal à la personne, il lui fasse du bien finalement. Dieu change le mal en bien. Dieu est un Dieu riche en bonté pour ses enfants. Est-ce que nous allons nous laisser instruire par ce Dieu tout-puissant ? La question est posée. Le pain de vie, c'est aussi une parole qui incite à l'action. Verset 28. Regardez la question. Deuxième question qui est posée à Jésus. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Moi, elle me pose problème, cette question. Parce qu'il y a déjà trois mots qui parlent de faire quelque chose. Que devons-nous faire pour faire les œuvres ? Et on voit véritablement que cette question traduit la mentalité de l'époque, par exemple des pharisiens, ou de tous ceux qui vivent de manière religieuse. Ceux qui mettent la loi en premier dans leur vie. Ceux qui mettent les ordonnances, mais de manière catégorique. Ceux qui pensent qu'ils méritent quelque chose du moment qu'ils obéissent. Ceux qui mettent leurs œuvres en premier. Que devons-nous faire pour faire ? Faire pour faire. Les gens qui continuellement cherchent à faire et à faire et à faire et pour faire, pour refaire et pour encore refaire. Et voilà leur obsession, voilà ce qui traduit leur question. Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle ordonnance tu vas nous donner, Seigneur, pour ajouter à notre longue liste ? Vous savez que les pharisiens, ils avaient un commandement pour chaque jour de l'année. Ils avaient 365 commandements, et encore, ils en avaient même 600 et quelques, mais ils en avaient au moins un commandement, ce qu'on appelle négatif. Tu ne dois pas faire ceci pour chaque jour de l'année. 365 commandements. Et là, ils étaient en train de dire, Seigneur, alors, tu vois, on a déjà tout ça, mais qu'est-ce que tu vas nous dire encore de faire ? Comment on va pouvoir se glorifier ? Comment on va pouvoir mériter le ciel ? De quelle manière ? Et en fait, le pain dont ils mangent, ces personnes-là, en fait, alors qu'ils croient manger le pain de Dieu, ils mangent le pain de la propre justice, ils mangent le pain de l'orgueil, parce que quand on fait des œuvres et quand on s'enorgueillit de faire ces œuvres, c'est l'orgueil qu'on mange. Ils mangent le pain de la gloire des hommes, les hommes qui les applaudissent parce qu'ils font toutes sortes d'aumônes. Et quand on réfléchit à ce qu'ils faisaient à l'époque, ils étaient capables de ne pas donner à manger à leurs parents, en leur disant, ben non, je ne peux pas donner à manger, j'avais prévu de donner cette somme pour le Seigneur. Ah, je suis désolé. À leurs parents. Ça, c'est la religion qui fait ça. La religion qui détache le véritable amour que Dieu voudrait donner à l'homme, qui le détache de l'homme. L'homme devient religieux, il devient méritoire, il pense mériter toutes sortes de choses, mériter la faveur de Dieu, mais le résultat réel, c'est l'aveuglement spirituel de ces personnes. Regardez leur état de cœur. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Comme on l'a chanté dans tous ces chants. Crois, croire. Est-ce que c'est tellement difficile de croire? Peut-être c'est plus facile de croire à des choses que nous faisons que de croire en Dieu. Mais le résultat, c'est qu'on est aveuglé spirituellement. Quand on croit mériter quelque chose, quand on croit mériter quelque chose par nos œuvres surtout, c'est qu'on est aveugle spirituellement. Quand on croit que nos œuvres vont nous rapporter quelque chose, et il y a des personnes qui passent leur temps à faire et à ne pas faire certaines choses, à respecter les ordonnances, à respecter toutes sortes de commandements d'une religion, et qui s'épuisent à force de le faire, et qui sont à la limite dégoûtés de sa religion, et elles, au final, ce qu'ils récoltent, tout simplement, c'est la désapprobation de Dieu, parce que Dieu nous a donné toutes choses par grâce. Tout ce qu'il nous donne, c'est qu'on ne la mérite pas, parce que nous sommes tous des pécheurs, mais Dieu nous fait grâce. Tout simplement. Manger le pain de vie, encore une fois, et pour ces personnes en particulier, c'est laisser la parole de Jésus agir en nous. Et c'est y répondre à cette parole par la foi. Et Jérémie disait cet après-midi, cette parole qui m'a interpellé, la Bible ne doit pas être simplement lue ou entendue, mais vécue. Combien c'est vrai? Combien ça sert à rien de connaître la Bible et les ordonnances de la Bible, et essayer de les respecter de manière humaine, et essayer de faire ce qui est bien, de ne pas faire ce qui est mal, et toutes ces choses-là, au lieu de vivre véritablement la Bible, de prendre les paroles de Jésus et de les laisser agir en nous. Oui, de se laisser instruire, mais que ça aille plus loin en profondeur en nous, que ça puisse nous transformer, que ça puisse nous changer nos vies, que ça puisse encore nous apporter la vie que Dieu veut nous apporter. Quand on mange du pain, on sait que ça nous nourrit, que ça nous donne la vie, que ça nous donne des forces pour pouvoir avancer de manière spirituelle. Le pain de vie nous permet, nous procure cette vie éternelle, cette vie qui subsiste jusque dans la vie éternelle, cette vie qui va au-delà de tout ce que l'humanité, de tout ce que les commandements, de tout ce que les ordonnances du monde humain peuvent nous apporter. Verset 29, Jésus nous dit que la seule chose à faire, c'est de croire en celui qu'il a envoyé, Jésus. Et quelqu'un me posait cette question récemment. Ici, dans cette église, vous ne priez pas le Notre Père. Ça paraissait bizarre parce qu'il venait d'un autre milieu protestant, ou peut-être catholique, je ne sais plus. Mais en tout cas, où ils ont l'habitude de répéter toutes sortes de paroles de manière systématique à chaque rencontre. Répète le Notre Père. Et je réfléchissais. Bon, moi je lui ai dit, nous d'accord, peut-être on ne le répète pas, mais par contre on le vit, tout simplement. On essaye du moins de le vivre. Et on essaye, à chaque parole, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais rien que déjà notre Père, nous on est capable, peut-être on ne le récite pas, mais on sait, on a cette assurance que Jésus, que Dieu plutôt est notre Père, parce que nous avons cru en Jésus. On a là cette assurance que nous pouvons faire la volonté de Dieu sur cette terre parce que nous allons faire ce que Dieu nous demande, nous allons laisser sa parole agir en nous et nous amener à obéir. Parce que nous avons toute cette assurance que sa volonté va être faite sur la terre, que son nom va être sanctifié parce que nous allons tout simplement croire en Dieu. Oui, peut-être nous récitons pas le Notre Père, mais nous le vivons. Nous avons cette espérance glorieuse, qu'un jour nous allons le voir, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous connaissez toutes ces choses-là. Mais ces choses-là, elles sont plus que des paroles pour nous. C'est des choses qui habitent en nous, qui travaillent en nous, qui font que leur action en nous produit un résultat dans nos vies. Le pain de vie, c'est une parole aussi qui interpelle. Et quand on regarde les personnes, les dernières personnes, peut-être c'était les mêmes d'ailleurs qui ont posé les trois questions. Peut-être c'était trois personnes différentes, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu trois questions de poser, la troisième c'est celle-ci. Quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Quel miracle fais-tu donc? Ça, c'est les personnes qui cherchent le surnaturel, absolument. Et qui sont intéressés que par le surnaturel, le sensationnel, qui sont intéressés par les émotions, qui sont intéressés par tout ce qui est un peu étonnant, qui sort un peu de l'ordinaire. mais qui tout ce qui est, frappe le regard en apparence, simplement, toutes ces choses-là. Et quand on regarde le verset 14, on s'aperçoit que ces mêmes personnes, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, et les paroles parlent d'elles-mêmes, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, etc., etc. Mais vous avez remarqué, ces gens ayant vu le miracle, et pourtant ils se permettent de lui poser cette question, « Quel miracle fais-tu donc ?» Et quel miracle ils ont vu ? Il est question de la multiplication des pains. À partir de 5 pains et quelques poissons, le Seigneur a nourri des milliers de personnes, et dont ces personnes qui lui posent la question. Pourtant, ils se permettent de dire au Seigneur, « Quel miracle fais-tu donc ? Hier, tu as fait un miracle, Seigneur, et peut-être que j'ai encore le ventre plein de ce que j'ai pu manger, mais quel miracle fais-tu donc aujourd'hui ?» Les personnes qui sont constamment à la recherche du miraculeux de Dieu, de cette émotion qu'ils vont peut-être sentir dans la présence de Dieu, et ça nous arrive de sentir des émotions, mais notre foi n'est pas basée sur des émotions ou des sentiments, notre foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Notre foi, elle est basée sur les paroles de Jésus, le pain de vie, celui qui donne sa vie au monde. Et ces personnes-là, qui mangent de ce pain du spectaculaire, elles ne se rendent pas compte que ce n'est pas le miracle qui sauve. Et vous pouvez demander à n'importe quelle personne, elle n'a jamais été sauvée par le miracle d'avoir été guérie ou de telle ou telle chose. Moi, j'ai vu des personnes être guéries dans des campagnes d'évangélisation en Afrique. Des trucs impressionnants où il y avait des milliers de personnes qui venaient, ils jetaient leurs béquilles, et des aveugles étaient guéris. J'ai vu toutes ces choses, j'étais petit, ça m'a marqué. Mais il y a beaucoup de personnes que j'ai vues à ces endroits-là que je n'ai pas forcément vues dans les églises après. Parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils ont obtenu leur dose de surnaturel, et c'est des bonnes choses. Le Seigneur d'ailleurs nous promet ces choses-là. Mais ce n'est pas ces choses-là qui sauvent. Le miraculeux n'a jamais sauvé quelqu'un. Le seul miracle, à la limite, si on veut parler comme ça, et d'ailleurs c'est Jésus qui va en parler, le seul miracle qui va sauver quelqu'un, c'est le miracle intérieur de la personne qui va croire en l'œuvre de Jésus, qui va laisser Jésus transformer sa vie par sa parole, qui va laisser le pain du ciel imprégner sa vie et transformer totalement, lui donner une vie nouvelle. Ça, c'est le miracle qui sauve. Le miracle de croire que Jésus est venu à la croix, le pain qui a été donné. Et d'ailleurs, on peut lire au verset 48, « Je suis le pain de vie, répète Jésus. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Vos pères ont connu le miraculeux de Dieu et pourtant ils sont morts quand même. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus est en train de faire allusion directement à son corps qui va être brisé à la croix. Le pain qui donne la vie au monde, ce n'est pas la manne dans le désert. Vous savez que les Hébreux ont eu la manne dans le désert. Vous savez que tous les matins, ils se levaient, ils pouvaient ramasser de quoi faire du pain. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'incroyable. C'est comme si tous les matins on se levait et que devant notre porte, il y avait une baguette de pain qui était là. Vous imaginez ? C'est quelque chose d'incroyable. On pourrait faire notre tartine sans aller à la boulangerie, prendre la voiture ou le vélo, se lever tôt, tout ça. Non, ça serait devant la porte. Et pourtant, Jésus nous dit, vous croyez que le pain, ce pain-là, c'est le pain qui sauve. Mais ce pain-là, il n'a pas sauvé les personnes. Il leur a permis de rester en vie. À ce moment-là, mais c'est tout. Quand ils ont fini leur vie, ils étaient morts tous. Tandis que le pain que Jésus nous donne, le pain qui est sa vie, son œuvre à la croix, son enseignement aussi, ça donne la vie à la personne. Ça donne la vie éternelle. Et je me souviens de toutes ces réponses que j'avais données à « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et bien encore une fois, la parole de Dieu nous répond « Mange le pain de vie que te propose Jésus. » Manger le pain de vie, c'est nous laisser interpeller par la parole de Jésus. Pas nous laisser interpeller par le miraculeux, par les choses extraordinaires que le Seigneur peut faire et va faire aussi. Parce qu'il a un Dieu qui répond à la prière. Et des fois, Dieu il est obligé de faire un miracle quand toutes les choses ne permettent pas, toutes les autres choses ne permettent pas d'accomplir sa volonté, Dieu est obligé de faire un miracle. Certaines fois, il permet que ce soit le docteur qui nous guérisse, mais c'est lui qui le permet. Certaines fois, il va faire un miracle. Il va dépasser le docteur parce que le docteur, il dit, moi, je ne peux plus rien faire pour vous, désolé. Mais Dieu utilise le miraculeux toujours dans un but précis. Il n'utilise pas le miraculeux pour nous faire plaisir, pour nous faire avoir des émotions. Le seul miracle qui va faire quelque chose dans nos vies, qui va changer nos vies, qui va nous permettre d'être sauvés, c'est le miracle de la croix. Le miracle du Fils de Dieu qui se donne à la croix pour des hommes pécheurs que nous sommes. Laissez la parole de Jésus nous interpeller en profondeur. C'est comme ça qu'on mange le pain de vie. Et quand on peut terminer avec ce verset que Pierre a dit à Jésus, cette phrase incroyable, alors que plusieurs disciples, en entendant cette parole, qu'il fallait manger Jésus, parce qu'ils l'ont pris littéralement, parce qu'ils se sont laissés avoir par leur vision terrestre des choses, il y en a plusieurs qui ont laissé Jésus. D'ailleurs, on peut le lire au verset 66. « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. » Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre, il a cette révélation incroyable que le Seigneur que la parole du Seigneur lui permet de dire. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous ? Quelle autre personne peut nous apporter la vie par sa parole ? Comme toi tu le fais. Quelle autre personne? De quel autre pain pouvons-nous manger que de ta parole? Toi seul peux nous procurer la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce soir, quelles questions posons-nous à Dieu véritablement? Parce que de toute façon, si nous ne lui posons pas à haute voix, Dieu y voit dans notre cœur. Il voit les questions qui sont là dans notre cœur. Quelles questions sommes-nous en train de lui poser? Qu'est-ce qui intéresse notre âme? Quels sont les besoins de notre âme? Et si on revient à cette prière du Notre Père, est-ce qu'on fait cette demande? Donne-nous aujourd'hui notre pain. Donne-nous notre pain quotidien. Est-ce que véritablement Jésus est notre pain quotidien? Qu'est-ce qui intéresse notre âme? De quel pain mange-t-on? On l'a chanté. De venir et de voir, de venir, de goûter, goûtez-vous que Dieu est bon. Ce soir, c'est une réalité. Ce soir encore, on peut goûter et on peut voir que Dieu est bon. Tout simplement en laissant la parole du Seigneur agir en nous. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Parce que tu ne nous as pas laissés dans le besoin, Seigneur, dans ce monde. Mais tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et Seigneur, tu es ce pain de vie qui nous procure la vie, Seigneur. Tu es le pain qui vient du ciel, envoyé du ciel, qui a quitté son trône de gloire pour se donner à la croix, pour aller jusqu'au tombeau, mais pour ressusciter afin que nous ayons la vie. Ce soir, nous voulons que ta parole puisse nous interpeller au plus profond de nos cœurs, pas nous interpeller par le miraculeux, mais par ta parole, tout simplement, par la puissance de ta parole qui transforme les vies, par la puissance de ta parole qui change les circonstances des vies, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu qui agit encore aujourd'hui, qui nous incite aussi à répondre à ta parole par la foi. Nous voulons répondre par la foi, Seigneur, à tout ce que tu nous enseignes, nous laisser également instruire. Seigneur, tu es ce pain de vie et nous voulons faire de toi notre nourriture principale, d'abord rechercher la nourriture éternelle avant de rechercher tout le reste, Seigneur. D'ailleurs, tu nous invites à chercher premièrement ton royaume. Et c'est ce que nous voulons faire encore dans cette soirée. Je te prie de bénir chaque personne qui est dans ce lieu. Que nous puissions, chacun pour notre part, faire ce choix de nous nourrir de ce pain de vie que tu es, Seigneur. Que ta parole nous donne. Et que jour après jour, nous puissions grandir, nous fortifier, nous encourager, nous exhorter par ta parole. Parce que de là vient aussi la foi, Seigneur. Que ton nom soit béni pour ces moments que tu as préparés par avance, Seigneur. Pour chacune des personnes qui se trouvent dans ce lieu. Parce que tu les connais et parce que tu veux les bénir. Je te loue et je t'adore, Seigneur. Amen.